d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Je vous rappelle que Mode d'emploi est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, c'est l'émission d'AC, Agir ensemble contre le chômage. Bienvenue parmi nous. Alors, nous commencerons cette émission, bien sûr. Nous parlerons dans cette émission de tout ce qui nous, de tout ce qui fâche, hein, des pauvres et des riches, bien sûr, du chômage, principalement du RSA, du revenu universel, et également des millionnaires qui sont financiers et qui explosent. Il y a beaucoup de plus en plus de millionnaires qui deviennent, qui augmentent. Un millionnaire augmente aujourd'hui. Donc, également les pauvres. Donc, nous en parlerons dans cette émission. Alors, nous allons commencer, bien sûr, par l'actualité. L'actualité, ce sont évidemment les primaires de la gauche et de la droite, ou dans la, ouais, inversement, puisque les primaires de la droite ont commencé avant les primaires de la gauche. Dans les primaires de la droite, Fillon est arrivé en tête, et donc il s'est présenté, il a gagné au deuxième tour, hein, des primaires. Et évidemment, comme tous ceux qui nous suivent connaissent un petit peu la situation, puisque maintenant, il a une affaire sur le dos. Hein, apparemment, il aurait embauché sa femme pour un emploi fictif, et ses enfants, pour un montant de 900 000 euros à tout, mais pour l'instant, l'affaire va être jugée par les juges, évidemment. Mais ça, je pense qu'il faudrait peut-être en faire un petit commentaire. Qu'est-ce que tu en penses, Ludo?
Moi, je voulais juste rester sur le programme de François Fillon. Il a été élu sur un programme ultralibéral, qui est d'une violence, qui sera dans un premier temps d'une violence rare pour les... pour les classes populaires, pour les chômeurs, pour les smicards. Donc c'est quelqu'un qui s'est quand même érigé en père la rigueur sur un plan économique, hein, le contrôle des déficits, ne pas augmenter le SMIC, surtout pas, et qui se présente même comme qui s'est même présenté comme un thatchérien et qui, pour faire passer la pilule amère, on peut le dire, hein, s'est présenté aussi s'habiller de la vertu. Bon. Et effectivement, je veux dire, le scandale est d'autant plus retentissant parce que il faut quand même expliquer oui, aussi pourquoi on ne parle que de ça depuis 15 jours, c'est-à-dire de l'affaire. C'est vrai, c'est une affaire entre autres, et puis finalement la campagne électorale est mangée par cette affaire, hein, et puis on est tout le débat derrière est occulté, tout. Mais il faut bien, pour comprendre ça, que quand on porte des propositions aussi brutales, eh bien, effectivement, Monsieur Fillon, on se doit d'être irréprochable, c'est vrai, et y compris d'être capable, dans certains cas, de travailler réellement quand on favorise des membres de sa famille, de s'assurer aussi que la rémunération est décente, parce que les montants sont quand même faramineux. Il faut quand même préciser que, juste comme ça, hein, mais ses enfants qui aurait travaillé en tant qu'assistante parlementaire, donc à respectivement peut-être 23, 21, 23 ans, ont touché des sommes de
84 000 euros, je crois, de mémoire.
Par mois, mensuellement, ça fait à peu près, en net, ça faisait entre 3 000 et 4 000 euros, en fonction des enfants. Donc, et on n'est même pas sûr de la réalité du travail. Donc c'est pour dire. Son enveloppe parlementaire, alors... Pour expliquer, hein, effectivement, il y a trois enveloppes parlementaires. Il y a ce que les gens savent peut-être déjà maintenant, c'est il y a l'indemnité parlementaire que le député touche, ses frais de représentation que les députés touchent, et il n'y a pas de contrôle. Et dernièrement, le dernier volant, c'est les assistants parlementaires. Donc, ça représente à peu près 9 000 plus 9 000 euros, plus 9 000, 6 000, je ne vais pas dire de bêtises.
Une quinzaine de 15 000 euros à peu près.
Plus 9 000 euros pour embaucher des collaborateurs. Ouais. Bon, cette indemnité-là a par moment été siphonnée complètement par l'emploi de sa femme. Voilà. Et évidemment, sans aucun contrôle, a-t-elle vraiment travaillé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais il faut bien comprendre que c'est de l'argent public et que des sommes pareilles, quand on refuse d'augmenter le SMIC, il y a un côté quand même... Voilà, un côté vraiment indécent Oui. Voilà, à se présenter à de l'opinion avec un tel programme pour arriver pour avoir eu autant de dépenses de choses indues.
Mais la question qu'on peut se poser, parce qu'en dehors du côté scandaleux de l'affaire, parce qu'évidemment des affaires il y en a dans tous les partis, hein, malheureusement pour beaucoup des députés puis des ministres, etc., on va dire que j'ai pas le chiffre, hein, mais on va dire que 50 voire plus de 50% des gens sont intègres. Mais effectivement, on découvre les affaires au fur et à mesure. Tous les partis sont concernés. Hein. Au Front National, il y a aussi des affaires. Les Verts ont aussi eu des affaires dans le passé.
Mais il y a un problème de moralisation des
politiques.
Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... On a eu beau critiquer les journalistes, des feuilles du chou à scandale, etc. Mais c'est quand même les coups de boutoir des journalistes qui, à la fin, moralisent progressivement. C'est la révélation des affaires qui contraignent, disons, le Parlement, parce que finalement c'est beaucoup des affaires qui touchent beaucoup les parlementaires, au sens où il y a quand même un espèce de, il y a eu longtemps un régime d'exception. On voit bien les assistants parlementaires, ils sont pas très encadrés, il y a pas de vérification, hein, y a pas de contrôle, il y a une déclaration de revenus, mais voilà. Et donc à un moment donné, effectivement, la transparence, c'est pas la transparence pour elle-même, mais c'est bien sûr pour la moralisation de la vie publique. On aura envie d'aller vers une démocratie nordique, hein, c'est-à-dire où effectivement, les élus sont quand même contrôlés, où les déclarations d'impôts peuvent carrément se retrouver sur Internet, et on a l'impression quand même que ça ferait du bien à nos pays latins. Mais je veux dire quand même que le Parlement a cette particularité d'être en état d'exception, d'échapper. Typiquement, par exemple, la chaîne parlementaire échappe au contrôle du CSA. C'est un exemple. Hein. Ouais, mais au sein du Parlement, vous êtes la TVA n'existe pas. Mais si c'est normal ou pas, c'est un pouvoir politique en tant que tel. Mais sur la rémunération des élus, le contrôle populaire devrait pouvoir s'exercer, enfin au minimum, quoi.
Donc, tu veux ajouter quelque chose, Christophe ?
Oui, en ce qui concerne le Penelope Gate, ça, comme le disait très bien Alain Juppé. Il vaut mieux avoir un passé judiciaire qu'un avenir.
Judiciaire.
Voilà. Et ça, c'est déjà un premier élément. Et deuxième élément, c'est que on est quand même devant un idéologue qui a trois aspects. Le premier aspect, hein, pour synthétiser, c'est de cette affaire, c'est les sous, c'est pour nous, le travail, c'est pour vous. Voilà. Ça passe pas dans l'opinion, ça. Voilà. Deuxième chose, c'est que, comme tu soulignais, le régime d'exception du Sénat, mais également donc de l'Assemblée nationale, pose un problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je crois, il y a deux, trois ans, les assistants parlementaires n'ayant aucun statut et l'opacité régnant, ils se sont constitués en collectif, puisqu'ils n'ont pas le droit à une représentation syndicale, pour avoir un statut. Et pour pas que tous ces abus qui concernent l'ensemble de la représentation nationale cessent et qu'on édicte enfin des règles. Donc c'est la conséquence d'un non-changement qui, de toute façon, devra être tôt ou tard, ne serait-ce que pour crédibiliser l'action de la République. Et enfin, le troisième problème qu'il y a dans cette histoire, c'est que ça faisait des années que ça durait. Donc derrière, il y a une petite bataille politique, hein. C'est pas sorti par hasard. On s'étonne, mais ça faisait des années que ça durait. Et ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que ce qui est extrêmement choquant, au-delà des montants, c'est le parcours de Monsieur François Fillon. Monsieur François Fillon, il a jamais mis les pieds dans une PME PMI. Il sait pas ce que c'est qu'une
entreprise privée. Une entreprise.
Il sait pas ce que c'est qu'un bulletin de salaire.
Ouais, c'est ça.
Il sait pas ce que c'est qu'un smicard. Après sa maîtrise de droit public, je crois, DEA, pardon. Monsieur Fillon, il a été assistant parlementaire, donc il a été au plus près du pouvoir, puis ensuite il est devenu conseiller municipal, maire adjoint,
régional,
député, ministre, premier ministre.
Il n'a fait sa carrière que sur les mandats électifs.
Il n'a fait sa carrière et son train de vie.
Il a commencé en tant qu'assistant parlementaire.
Voilà. Donc être le chantre d'une réforme de l'économie alors qu'on n'a jamais eu de fonction aussi bien. En tant que fonctionnaire donc au niveau de l'État, que dans le cadre du privé, et vouloir réformer avec une logique aussi radicale, c'est une aberration. On sent bien que ce monsieur derrière, il a des lobbies. Et d'ailleurs, on sait sûrement pas tout, parce que comment se fait-il alors qu'il est le chantre de la transparence. Il y a quand même une injonction, il y a quand même un gros paradoxe dans son discours. C'est j'ai créé juste avant d'être député parce que la loi me le permettait pas un cabinet de conseil.
Juste avant d'être député pour échapper à l'interdiction. Donc, en tant que député de créer
mon cabinet. Donc je le fais, je respecte le cadre légal puisque lorsque j'ai un mandat électif, j'ai plus le droit de le faire. Mais je vous dirai pas pour qui je travaille et quels sont les enjeux derrière qui ont été motivés. Enfin, c'est quand même, ça pose.
Et bientôt futur président de la République.
Voilà, futur président de la République. Donc personne qui a autorité sur les armées, sur l'arme nucléaire, dire je viens pour porter la parole des Français et un projet pour les Français, mais vous, j'ai toujours travaillé dans une certaine forme d'opacité. Enfin, ça pose quand même un gros problème.
Toujours, n'exagérons pas, c'est en 2012 qu'il a créé, mais justement, en étant Premier ministre et en utilisant ses réseaux de Premier ministre. Cela dit,
pas toujours.
Je veux dire, à la limite, on peut renvoyer tout le monde à un article du Monde diplomatique qui s'appelle « De quoi François Fillon est-il le prête-nom ?» et qui fait le compte des soutiens de François Fillon qui, sans surprise, alors, sans surprise, je veux dire, il y a un ancrage catholique.
Très à droite aussi.
Très à droite et catholique. Bon, certes, et des anciens d'Occident aussi. Oui, mais c'est aussi des gens qui, pour certains, sont passés par le public en tant que haut fonctionnaire, et ensuite sont allés au privé et ont profité de la libéralisation de l'économie, finalement, pour s'enrichir. Et donc, notamment, son ami, le milliardaire qui a embauché sa femme, donc monsieur de la Chartrière, je crois,
c'est ça. Ouais.
Effectivement, c'est quelqu'un qui finance à qui mieux, aussi bien les partis de gauche que les partis de droite, par exemple.
En tout cas, sa défense est mauvaise, enfin pour l'instant elle est pas terrible. Il devrait faire acte de confession et puis rembourser tout ce qu'il a.
Il sera jamais président dans ce cas-là.
Mais ce qui pose un problème, c'est parce qu'on focalise sur monsieur Fillon, mais il faut quand même pas oublier le soutien de monsieur Macron. Hein, qui sont quand même des grands chefs d'entreprise. Hein. Le CAC 40, c'est quand même étonnant. Les soutiens de Madame Le Pen.
Hein. Oui, oui, oui.
Voilà, c'est les 3-4 candidats potentiels qui sont dans des programmes conservateurs, voire radicaux au niveau économique sur la notion de libéralisme, sont quand même très bien encadrés parmi les plus grandes fortunes de ce pays. Ça pose un problème démocratique.
Mais chercher où est l'argent aussi, c'est ça, hein, pour financer les campagnes. Et les réseaux.
Je vous propose d'écouter une première chanson, ensuite on prend la parole. Merci.
On ne croit pas aux clous des fakirs. On croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà. On préfère le communard au qui. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flore.
Et oui, un petit chant libertaire, ça nous remet en train. Voilà, ça nous fait revivre un peu d'anciens combats que nous avons menés à AC et puis ailleurs aussi dans d'autres mouvements. Il fallait finalement en parler.
Ça commence bien, tu vas faire fuir Fillon.
Je citerai le nom tout à l'heure de la personne qui a chanté cette chanson. Raymond Gary, voilà. Merci beaucoup Claude. C'était le technicien qui était, voilà. Donc on reprend cette émission, mode d'emploi sur 106.3 FM, émission d'AC, agence contre le chômage. Évidemment, pour aller toujours dans l'actualité, nous avons fait un petit tour sur évidemment la primaire de la droite, mais il fallait faire aussi un petit tour pour être un peu égalitaire, enfin être juste en tout cas. Faire un petit point sur évidemment la primaire de la gauche, où c'est monsieur Hamon, ce qui n'est pas pour me déplaire, qui a pour le coup gagné cette primaire, qui est l'aile gauche du PS, hein, évidemment. Et qui a effectivement dans ses propositions parlé du revenu universel. Voilà. Donc Ludo et Christophe, vous avez suivi un peu cette affaire de revenu universel, Ludo?
Oui, carrément. Je te disais qu'on a interviewé Bernard Friot ici.
C'est vrai.
À cette antenne, qui est le grand inspirateur donc du revenu universel.
C'était un piège. Hein, je voulais...
et donc du revenu universel intégral, hein, c'est-à-dire financé par la cotisation sociale. C'est-à-dire enfin grosso modo par un prélèvement sur la TVA, pardon, sur la valeur ajoutée, excusez-moi, des entreprises, un prélèvement complet, de la valeur ajoutée des entreprises qui serait automatiquement redistribuée à tous les salariés. Voilà, et donc une proposition qui fait un grand débat à la gauche de la gauche, parce qu'on est, tout le monde n'est pas d'accord, notamment les économistes d'attaque, et on voilà.
Et on peut les comprendre aussi, enfin.
On peut les comprendre aussi, tout à fait. Et alors effectivement, c'est étonnant parce que finalement, Benoît Hamon, finalement, c'est les socialistes de gauche qui s'inspirent de ce projet, qui récupèrent ce projet. C'est Benoît Hamon qui s'en inspire. Ancien ministre du Travail, hein, quand même, et conseiller de Martine Aubry au ministère du Travail, donc qui a promu les 35 heures, donc la réduction des temps de travail, et qui, comment dire, se gauchise au point effectivement de remporter la primaire socialiste et de faire passer Mélenchon pour un ringard productiviste en quelque sorte. Hein. C'est un peu ça l'idée, accroché à sa valeur travail. Donc, c'est-à-dire de le doubler sur sa gauche, en fait, hein, on aurait presque envie de dire, sur un plan politique. Et donc, ça a vachement bien marché. Et moi, je crois que ça a très bien marché, simplement parce qu'il l'a, comme il est quand même malin, il l'a proposé, effectivement, pour les jeunes. Et où là, on a envie de dire que il y a urgence, en quelque sorte, effectivement, de pouvoir, disons... permettre là où le taux de chômage est le plus élevé, ou là où il y a aussi des taux de déscolarisation très forts, là où il y a aussi une vraie difficulté à l'emploi, de permettre aux plus jeunes de prendre une vraie autonomie par rapport à leurs parents et aussi en quelque sorte par rapport au marché du travail qui ne les accueille pas, hein, et leur permettre effectivement de faire des études dans de bonnes conditions. Donc de ce point de vue-là, en ce qui concerne les jeunes, c'est une très bonne idée puisque il a avancé plusieurs arguments, hein, c'est-à-dire celui de pour les jeunes de libérer des emplois pour ceux qui ne seraient plus jeunes mais qui pourraient travailler, donc typiquement des emplois de serveurs par exemple, ou des emplois peu qualifiés. Et il a oublié c'était son argument principal, hein, et je crois qu'il en a oublié deux, hein, des arguments, c'est quand même de soulager simplement les parents, les ménages, d'avoir à produire un effort financier pour soutenir leur famille, puisque ça a un coût quand même considérable, et aussi c'est une égalité, me semble-t-il, hein, rétablir une espèce quand même d'égalité devant la formation et devant les études, c'est-à-dire ne pas être obligé à un étudiant de travailler, c'est-à-dire que les taux d'échec aux études sont liés beaucoup au travail pendant les études, voire même de permettre à des gens qui aux revenus modestes de suivre des grandes écoles quand ils ont du mal à payer les frais de scolarité. Vous voyez, parce que ça, c'est voilà, les frais de scolarité font une espèce de boom, notamment
cher, ouais.
Dans l'élite. Et là, enfin, c'est là qu'on voit la reproduction sociale, à mon avis, hein, être la plus, enfin, comment dire, la plus. C'est des choses qu'on voyait peut-être pas autant il y a 20 ans ou 20 ou 30 ans, mais le retour de la reproduction sociale par l'argent. Du fait des hausses du frais de scolarité, un peu sur le modèle américain. Donc voilà. Donc du coup, c'est une très bonne idée là, ponctuellement. Rien n'indique que sur la durée, il fera mieux. Voilà. Mais ceci dit,
oui, mais pas sous moi. Mais il pose quand même le barème à 700 euros, 750 euros.
Alors, c'est toute la question finalement. Le SMIG, il est à 600 euros. Le RSA, il est à 600 euros. 635 euros pour une personne seule, hein, bien sûr. Donc, ce qui fait dire à Monsieur Mélenchon que, au fond, le revenu universel de Benoît Hamon, c'est un SMIG amélioré, et c'est tout. Et il a pas tout à fait tort parce que c'est pas avec 600 euros qu'on paye un logement de toute façon. Hein. Enfin, bon, faut s'entendre, hein, mais voilà. Cela étant dit, donc il propose effectivement à 800 euros.
Écoute, oui, c'est moi.
Non, mais effectivement, donc Mélenchon dénonce un SMIC amélioré, et c'est vrai que.
La question en fait, elle est pas tellement le fait. Bon, le revenu universel ici, assez, on était tous d'accord.
Enfin, ouais, mais c'est pas ça le problème.
Excuse-moi, Christophe. Le revenu universel, on était tous, enfin en tout cas dans cette, tous d'accord sur les mots. Enfin, tous d'accord sur qu'il y avait certainement des gens qui étaient plus ou moins cons.
Sur le principe,
on est d'accord. Par contre, c'est le montant. On n'est pas d'accord sur le montant. Ça va coûter. comment récupérer l'argent, qui va payer, etc.
Non, mais c'est... là, moi, je là, je suis pas d'accord. Assez, on n'est pas tous d'accord. Mais il y a, non, y a une chose bien, mais... qu'on est d'accord, ou sur laquelle on est d'accord, c'est que, comme le résumait Bernard Friot, autant il y a une période, il y a une bataille pour l'égalité salariale qui a été gagnée, autant la bataille pour le plein emploi est perdue. C'est ce qu'il a dit, voilà. Et on peut se reconnaître là-dedans, en quelque sorte, ouais, avec voilà, avec 3 millions de chômeurs. Mais cela dit, bon, 800 euros, si vous voulez, c'est effectivement, c'est, le problème, c'est que ça ne pourrait être qu'une allocation unique, si vous voulez. En fait, finalement, c'est ce que veulent finalement les libéraux, c'est fondre toutes les allocations pour arriver à une allocation unique. Et plus que ça, c'est-à-dire éventuellement, vu le coût qui est induit, hein, Christophe en parlera pour les conseils généraux, mais pour les départements, pardon. Mais vu le coût qui est induit, on peut aussi imaginer que certains services publics souffrent, en fait. C'est-à-dire qu'on fasse des coupes, en fait, dans les services publics. C'est un vaste débat. Et la dernière chose, c'est que 800 euros, bah ça reste ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être une trappe à pauvreté, comme le dit Mélenchon, dans la mesure où ça reste tout ça à vérifier, mais dans la mesure où finalement prenons acte que un certain nombre de gens ne travaillent pas et qu'on les finance. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire une mesure de partage du temps de travail, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de lutter contre le plein emploi.
Voilà. Mais donc le but est quand même de trouver. Enfin, on est tous d'accord pour dire que il est inadmissible de voir des gens dormir dans la rue, là, des gens pauvres, des gens qui n'ont pas de logement, des gens qui dorment dans leur voiture. Ça, c'est insupportable. Des gens qui sont pauvres et qui ne peuvent pas travailler,
oui,
c'est insupportable.
Alors réfléchir à l'allemande, à des systèmes. Non, mais on pourrait réfléchir à des systèmes à l'allemande, oui, si tu veux, qui permettent effectivement la colocation, oui, le frein à l'immobilier.
Le covoiturage, etc., etc.
Pas le covoiturage, enfin, je te parle juste d'abord du logement, si tu veux, qui est la priorité.
Bien sûr.
Alors, moi, par rapport au revenu universel, je voudrais souligner un excellent article. Hein, qui est passé dans le RT en français, c'est en fait, c'est Danny Lang qui est maître de conférence en économie à l'université de Paris 13. Il est responsable d'un groupe d'analyse et de modélisation post-keynésienne au Centre d'économie de Paris Nord. Donc c'est un des membres des économistes atterrés. Et voilà ce qu'il dit dans une interview. Je vais synthétiser. D'abord, ils disent, les néolibéraux, et puis on peut dire aussi les libéraux, disent toujours qu'ils veulent sauver le système social en son nom, puisque les libéraux veulent le revenu universel. Hein. Mais en fait, ils ne font que des réformes pour le miner de l'intérieur. C'est ça, c'est un postulat de base. Et donc, voilà ce qu'il dit, lui. Il dit, il ne croit pas à la pertinence d'une proposition de revenu universel comme le veut Benoît Hamon. Parce que, pour beaucoup d'économistes atterrés, c'est une mauvaise idée pour de nombreuses raisons. D'abord, quelque part, c'est acté pour toute une partie de la population, si tu veux, l'idée de la fin du travail. C'est-à-dire que le plein emploi pourra plus être assuré pour tous. Or, là, il y a un paradoxe, c'est qu'on est dans une société où il y a encore beaucoup de besoins sociaux non satisfaits. Place en crèche, manque d'infirmières. Enfin, je vais pas faire une liste à la Prévert. Milieu associatif, où il y a eu des coupes drastiques. Et c'est quand même assez curieux d'un côté qu'on dise... c'est la fin du travail pour un ensemble de personnes alors qu'il y a plein de besoins sociaux et socioculturels non satisfaits. Ça, c'est quand même un paradoxe. Hein. Et il vaudrait mieux, dans ces cas-là, partager le travail.
Hein.
C'est-à-dire le réduire. Sachant qu'il y a des pistes qui ont été expérimentées dans les pays nordiques, comme l'allongement du congé parental, par exemple, qui est très
exactement
peu utilisé en France.
Mmh. Hein,
non, mais... Et donc, du fait que... effectivement, les économistes atterrés sont globalement favorables à la réduction du temps de travail sous différentes formes, hein, c'est-à-dire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à minima, la réduction effectivement du temps de travail, le congé parental, j'ai évoqué tout ça. Sauf que si on met, par exemple, une allocation à partir de 750 à 800 euros,
pour tous les Français, hein,
voilà,
majeurs.
Ouais. Ça sera plutôt une version libérale à la Milton Friedman, c'est-à-dire que là, on remplace toutes les aides sociales existantes. Et quand tu regardes, par exemple, les notes de recherche de la Fondation Jaurès, donc un revenu universel à 700 euros, ça va créer un paradoxe. D'abord, ça va augmenter les frais de scolarité, des universités, parce que les étudiants le toucheront, ainsi que les loyers, parce qu'il y aura un minima garanti. Donc, à vouloir faire bien et tout rationaliser, il y aura un effet pervers. Et ça, c'est pas une hypothèse...
Sauf si on bloque les loyers.
Voilà. C'est pas une hypothèse... Oui, mais on s'attaque à la notion même de marché. Voilà.
C'est pas... C'était le but du revenu universel.
Oui, oui.
Voilà. Et
excuse-moi, mais il y a quelque chose qui m'a fait sursauter dans ce que tu viens de dire. C'est le plein emploi. Ça peut bloquer le plein emploi. Mais le plein emploi, il n'y a plus de plein emploi. De toute façon, il n'y aura plus jamais de plein emploi. Vu la situation, si nous sommes toujours gouvernés par les mêmes, le plein emploi, c'est terminé. Le plein emploi, ce sera simplement pour les maris ou femmes de gens qui sont au pouvoir, qui vont avoir éventuellement des emplois fictifs. Mais réellement, les gens, le travail n'existe. Enfin, il y a de moins en moins de travail, en fait. Parce qu'il y a la robotisation, il y a tout ça. Tout...
Mais ça, c'est un débat voilà, qu'on n'a pas. Enfin, on n'a pas de boule de cristal pour le
non,
dire.
Non, mais si tu veux, c'est. Si tu veux, le chiffrage qui a été donné par rapport à la proposition phare de Benoît Hamon, c'est 450 milliards par an. C'est quand même beaucoup. Sachant que l'État social représente actuellement en France environ 700 milliards. Donc le PIB annuel à peu près 2000 milliards. Si tu touches à l'État social tel qu'il se présente, et que tu rajoutes 450 milliards, ça veut dire que tu arrives à la moitié de la richesse produite.
Quand on parle de... Oui, je voulais juste faire une correction par rapport au débat. Quand on parle de budget de l'État, les 400 milliards, oui, mais c'est oublier le budget de la sécurité sociale. Ça reste énorme. Moi, le budget de la sécurité sociale est plus important que le budget de l'État.
Parce que... Alors, je précise une chose, c'est que effectivement, les libéraux, hein, les courants libéraux et ultralibéraux, les ultralibérales, pardon, sont totalement pour, mais eux, pourquoi ils veulent faire une allocation unique de 700 euros? Parce que ça prendrait tout en considération. C'est-à-dire que sur les 500 milliards que correspond l'aide sociale, c'est-à-dire allocation logement, allocation autonomie, en fait, tu économises des dizaines de milliards. De...
Ah, c'est même plus pervers que ça, plus parce que j'ai la version libérale souvenez. C'est une façon aussi de remettre en compte le SMIC. Hein.
Voilà, absolument. Et par-dessus le marché, si tu veux... Ça veut dire que les gens les plus modestes seront encore plus précarisés. Donc ça va pas relancer la machine économique. En fait, c'est une simplification par le bas. D'accord. Avec toutes les conséquences sociales. Alors, que ça peut...
Est-ce que j'ai le droit de me faire l'avocat des libéraux ici?
Tu peux y aller, oui, effectivement.
Pas de censure, chef. Ok, donc oui, parce que, évidemment, et c'était comme le dit très bien Christophe, c'est que les temps font que même des gens, même des libéraux, donc, sont pour le revenu universel... Et du coup, et donc on dit ah enfin, ils ont compris. Enfin bref, ils ont compris qu'il fallait être un peu social, tout ça, tout ça. Alors le promoteur, hein, c'est Monsieur Koenig, Gaspard Koenig. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un philosophe qui passe souvent à la télé et qui a pris une étude avec Monsieur Basquiat. Et donc il y avait une recension dans l'Écho. Et donc lui il prenait l'exemple très intéressant des États-Unis. Et donc il disait, bah écoutez, aux États-Unis il y a pas de salaire minimum, donc pas de salaire minimum évidemment. Donc grosso modo ça fait l'emploi de, par exemple, de laveur de carreaux hein, à 6 € l'heure. Vous voyez, 6 € l'heure, évidemment. Avec qu'est-ce qui se passe? Quelles conséquences ça a? Un truc qu'on sait en fait depuis qu'on a tous commencé à comprendre, c'est que la loi du marché de l'offre et de la demande en fait concernant l'emploi par les temps qui court ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez plus de demandeurs d'emploi que d'emplois offerts, ben c'est simple, vous baissez le coût du travail, vous baissez la rémunération. C'est typique, c'est ce qu'ils font aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Or, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que le chômage tombe à 4% ou 5%, d'accord, mais en fait, une partie des gens qui travaillaient auparavant se retirent carrément du marché du travail. C'est-à-dire qu'ils ne... Ils ne postulent même plus à un emploi et ils ne postulent même plus donc à la NPE américaine et déclarent pour ce salaire-là, je préfère rester chez moi. Quand on connaît le niveau des aides sociales aux États-Unis, c'est dire à quel point en fait travailler n'a plus aucun sens pour ces gens-là. Vous voyez ? Et on a constaté qu'en Allemagne, au moment où on a instauré un SMIG, des gens sont revenus sur le marché du travail. Le chômage a baissé. C'est vous dire que il y a un léger problème, si vous voulez, de théorie économique quand on parle du chômage, en quelque sorte. Bon. Ces gens-là restent dans cette idée d'offre et de demande, non, peu importe. Mais ils disent, là, le revenu universel, il devient important parce qu'effectivement, en garantissant un complément de revenu par l'État, eh bien, effectivement, on va ramener des gens, vers le travail. Absolument. Et donc, le chômage va mécaniquement baisser.
Ouais, et voilà, ça paraît logique. Enfin, bon, a priori,
mais... aux États-Unis, effectivement, voilà. Mais forcément, une fois de plus, c'est la collectivité locale qui vient au secours des employeurs, en quelque sorte. Hein. C'est un peu le principe des 30 dernières années, hein, de tous les emplois aidés de, en France. Et il dit, mais bon, en France, ça marchera jamais. Et pourquoi ça marchera jamais? Parce que le SMIC fait qu'en France, on est à 10 euros l'heure. Et que là, eh ben oui, mécaniquement, on a un chômage à 10%. Alors, on a envie de lui dire, oui, c'est possible. Mais simplement, 10%, ça n'empêche pas, bon, 10% pour des tas de raisons, ça n'empêche pas que les gens peuvent postuler, bon, en principe, ils postulent, ils recherchent un emploi. Mais qu'en fait, on s'est quand même aperçu depuis bien longtemps que les gens fuient les emplois les plus faiblement rémunérés. Et c'est pour ça qu'ils restent au chômage. Ce qui est bien sûr inadmissible pour nos libéraux. Parce que même si t'as fait Bac plus 5, si t'es au chômage, t'as le droit d'aller laver des vitres, comme tout le monde. On lui dit oui, comme tout le monde, en début de carrière, mais peut-être pas enfin. Et donc, l'idée qu'elle est fabuleuse, c'est que le revenu universel en France pourrait très bien marcher à condition de supprimer le SMIG.
Ah, d'accord.
Et oui. C'est-à-dire que là, mécaniquement, le coût du travail, entre guillemets, pour les emplois non qualifiés, baisse. Tu compenses ça par
un revenu SMIG.
Et t'as un effet de bain, t'as des gens qui reviennent parce que, tout d'un coup, bon. Très franchement, tu reviendrais sur le marché du travail parce qu'il y aura des conditions un peu meilleures de travail.
C'est un débat qu'on va de toute façon on va suivre parce que je pense que les gens qui réfléchissent sur sur ce revenu universel, ça, nous assez, on y réfléchit depuis 25 ans, on va dire.
Il a mis du temps à s'imposer.
Mais Attac aussi, ils ont réfléchi à ça depuis très longtemps.
Bien sûr, mais tout le monde n'est pas d'accord.
Tout le monde n'est pas d'accord. Non. Mais justement, maintenant que Hamon en parle, là, je pense que ça peut éventuellement faire en sorte on va suivre les débats sur ce sujet. Je vous propose d'écouter une chanson, ensuite on reprend la parole. Merci. Et oui, vous venez d'entendre Los Camasquero de Intilimani, c'est un groupe chilien révolutionnaire qui ont donc fui le Chili pendant au moment de l'avènement de Pinochet. Et qui, des années 1975, ont été donc obligés de faire leurs chansons en Italie. Voilà. C'est un groupe extrêmement connu, en tout cas, par les intellectuels chiliens, même par les intellectuels de tous les pays du monde, hein, pour le coup. Donc moi j'adore, et puis c'est pour ça que je voulais vous faire partager cette chanson. Nous reprenons cette émission, excusez-moi, avec Agir ensemble contre le chômage. Donc je suis avec Super Ludo et Super Christophe, Super Claude à la technique et Gilles au micro avec vous, bien sûr, ce soir, donc pour une émission en couleur, évidemment. Donc on a parlé évidemment du revenu universel, mais ce revenu universel, il a déjà un petit frère ou une petite sœur, je sais pas comment on l'appelle, qui existe déjà, qui est le RSA.
Donc le revenu de solidarité active. Voilà. Alors le problème, donc là on a un petit article du Figaro qui récent, qui donc évoque le fait le coût faramineux du RSA pour les départements, puisque le RSA continue de peser de plus en plus lourd dans les dépenses sociales avec les départements. Ça a atteint 36,1 milliards d'euros en 2015, une hausse de 2%, avec 11,3 milliards d'euros qui lui sont consacrés. Le RSA donc reste le poste qui a le plus progressé, plus 6% de dépenses, selon une étude publiée vendredi dernier par l'Adresse. C'est une conséquence directe de la hausse du chômage qui entraîne donc une augmentation des bénéficiaires. Il faut savoir que désormais le RSA arrive en tête des dépenses sociales des départements. Certains même se retrouvent en difficulté de paiement par rapport à ça. C'est un tiers de leur budget d'aide sociale en général. Par contre, les dépenses d'insertion ont significativement baissé en 2015 avec un recul de 9%. Fixé à 535 euros mensuels pour un célibataire et 1123 euros pour un parent isolé avec deux enfants, en fait, le RSA assure un revenu minimal aux personnes sans ressources. Il se distingue de la prime activité qui était issue de la fusion entre le RSA activité, la prime pour l'emploi, etc. Les autres catégories d'aide sociale des départements ont connu une croissance plus modérée. L'aide sociale à l'enfance n'a augmenté que de 2% avec 7,5 milliards d'euros en 2015, mais pèse quand même 23% des dépenses sociales et départementales totales. Alors ça, c'est des chiffres, mais c'est à mettre en parallèle avec un article qui a été publié là encore par le Figaro, mais qui pose un véritable constat, parce qu'on parle du revenu universel, hein, et non pas la répartition du travail et du temps de travail. Et ben devinez quoi, il va falloir quand même qu'on se pose un jour la question de la réduction du temps de travail à salaire égal. Pourquoi? Parce que le nombre d'embauches en CDD de moins d'un mois est passé d'1,5 million par trimestre en 2000, donc 1,5 million de trimestres en 2000 en termes de temps pour des CDD, à 4 millions en 2005. C'est une explosion.
Et on savait hein, que
la majorité... C'est-à-dire que les contrats de travail très courts sont de nouveau sous la lumière. Il y a d'ailleurs une réunion patronat-syndicat sur le sujet. D'abord, l'ombre d'embauche en CDD de Monama a plus que doublé en 15 ans. Hein, ça, je viens de le dire. Les recrutements en CDD plus longs, en revanche, n'ont pas bougé. Ce sont en fait très souvent les mêmes personnes qui accumulent les CDD dans les mêmes entreprises. Ainsi, en 2012, 84% des CDD de moins d'un mois et 69% représentaient 69% de l'ensemble des CDD, sachant que sur ces CDD de moins d'un mois, les trois quarts étaient des réembauches. Hein. Alors, il y a des secteurs typiques, hein, comme la restauration, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, l'hébergement médico-social. En 2013, près de 250 000 personnes, dont deux tiers de femmes, enchaînaient ainsi des CDD très courts. C'est des véritables trappes à pauvreté. Et c'est un problème de fond, puisque trois secteurs en particulier sont friands donc de cette pratique. Hein, j'ai dit la restauration, tout ce qui est activité spécialisée.
L'art de la rue aussi, je crois.
Voilà. Médico-social, etc. Donc, ça explose.
Oui, les intermittents du spectacle.
Donc, il va y avoir une nouvelle discussion à partir du 15 février sur le sujet, parce que c'est quand même un petit accord avant la présidentielle, parce qu'enchaîner les petits CDD de un mois, c'est pas une vie. Voilà.
Très bien. Alors, c'est un paradoxe, hein, parce que finalement, en France, 86% des salariés, je crois, sont en CDI. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui... alors que le volume de CDD a atteint des taux records, hein, c'est-à-dire, je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais 78% des embauches en CDD de moins d'un mois, 70 à 80%, c'est énorme, quoi. Et en fait, c'est un allongement de la durée de stabilisation de l'installation dans le CDI.
Tout à fait. Il faut savoir que ces CDD en question de moins d'un mois sont renouvelés sur 6 mois avec le même employeur, en fait. C'est ça l'idée, donc. Ils mettent les gens en CDI.
Il y a un abus,
absolument.
Clairement.
Alors, pour aller un peu dans le même sens, bien que ça n'a rien à voir, mais il y a quand même un lien. Depuis la rentrée au lycée Blanqui de Saint-Ouen, Saint-Denis, 7 élèves, donc, de lycée, certainement, sont sans logement fixe. Donc, ils se retrouvent obligés de dormir dans la rue, en foyer d'accueil ou en hôtel. Donc, il y a un collectif d'enseignants qui se sont mobilisés pour trouver un logement à ces jeunes. C'est inadmissible que des jeunes de moins de 18 ans se retrouvent à dormir dans la rue. C'est un scandale, d'autant qu'en Allemagne, par exemple, c'est interdit de dormir dans la rue en Allemagne, hein, tout le monde doit être logé. En France, on est encore dans cette situation. Moi, ça me fait bondir. Voilà. Donc ça, il fallait quand même que ce soit dit. On en reparlera certainement. Oui. Voilà. Donc il faudra en reparler, on en reparlera certainement plus tard. En tout cas, évidemment, tous les gens de la station ici, et puis dans cette émission, on soutient le collectif d'enseignants. Et nous espérons que ces jeunes vont trouver un logement. Voilà. Donc on va peut-être reprendre un petit peu sur les... Maintenant, on a parlé des pauvres. Est-ce qu'on peut parler des riches? Apparemment, les riches explosent aussi. Enfin, il y a plus en plus de riches en France, apparemment.
T'aurais trouvé un fillon populiste?
Je sais pas. Je parle auto, mais est-ce que tu peux me parler des millionnaires qui sont... qui s'accentuent? Non? Tu peux pas?
Non.
On n'en parlera pas, alors.
finalement, oui.
Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Hein.
Donc, en fait, c'est un petit article hein, sur le nombre de financiers millionnaires en Europe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, chez les plus riches, tout va bien, puisque d'après une étude de l'autorité bancaire européenne, donc c'est pas du pipeau, c'est officiel, hein, en 2015, le nombre de banquiers gagnant plus d'un million d'euros par an hein, en salaire a augmenté, devinez quoi, de 34%. Donc vous aviez 100 banquiers qui gagnaient plus d'un million d'euros net par an, et ben maintenant vous en avez 134. La vie est belle. Donc, on avait 5142 banquiers qui avaient gagné plus d'un million d'euros en 2015, alors qu'ils n'étaient que 3865 en 2014. La vie est moche. Au total, bon, ils ont perçu 4,1 milliards d'euros de salaire fixe et 6,1 milliards d'euros de bonus, précise l'institution. Alors, là où il y a une grosse hypocrisie, c'est que sur les 6,1 milliards d'euros de bonus, on ne sait pas s'il y a des stock options, c'est-à-dire que ça sera encore plus, tu fais de la revente, ça c'est pas précisé, c'est ça qui est drôle. Donc, ça pose quand même un gros problème. Alors, il y a un drame, hein. Un drame chez les riches, certains banquiers millionnaires du Royaume-Uni qui sont payés en livres sterling, qui était une monnaie forte, gagnent un petit peu moins. Ils avaient gagné de l'argent parce que la livre sterling était forte avant le Brexit, donc là ils perdent un peu d'argent. En ce qui concerne la France, oui. Tu veux savoir quelques petites données ?
Ah bah bien sûr, on est là pour ça. Oui.
Alors la France compte 178 banquiers millionnaires en 2015. Hein. Donc, ils se partagent 109 millions d'euros de salaire, plus 185 millions d'euros de bonus. Ils étaient 124 en Italie, 279 en Allemagne. Alors, quant à l'épineuse question des bonus et stock options et autres gunevnins, déjà plafonnés par une réglementation européenne, devinez quoi ? Certains pays n'ont pas hésité à utiliser les exemptions autorisées par les gestionnaires d'actifs. Alors, en fait, c'est un mécanisme. Tu crées une société offshore, machin, bidule, pour, dans un autre pays, pas déclarer ce que tu gagnes, ce qui fait que il y a un petit malin en France dont on tient un nom, basé à Londres, qui a empoché comme ça 33,5 millions d'euros de bonus pour un salaire de 200 000 euros.
Le pauvre.
Donc, en fait, la réalité, c'est que près de 15 000 banquiers européens ont doublé leur plafond de bonus, ce qui est absolument hallucinant. L'autorité bancaire européenne essaie de jouer les gendarmes. Elle soupçonne bien évidemment les banques de verser indûment des primes de fonction qui s'ajoutent au salaire sans être forcément déclarées ou d'augmenter le plafond des bonus potentiellement distribuables à leurs banquiers. C'est un jeu de chat et la souris. L'autorité bancaire européenne, on la croit sur parole, tire la sonnette d'alarme. Ça doit faire dring, mais il doit y avoir des billets qui sortent. C'est pour ça qu'on n'entend pas. Je me doute. Parce que dans au moins 8 pays d'Europe, les primes de fonction seraient détournées à leurs usages et serviraient en fait par un effet de levier à faire décoller des rémunérations variables des banquiers. Alors, il a été dit que cette multiplication par deux des plafonds de bonus, ça concerne quand même 24 000 professionnels. Et j'ajoute pour la France, hein, parce que c'est beau, c'est que c'est la crise en France. Vous savez, il y a quand même combien de millions de personnes qui sont au minima social sous le seuil de pauvreté, enfin qui vivent.
On va dire 6 millions, oui.
9 millions. Il y a un million cinq de RSA.
Les seuils de pauvreté.
Tu mets les chômeurs dedans,
non, c'est pas chômeurs. Voilà, 14% de la population est en dessous du seuil de pauvreté.
Voilà. Eh bien, devinez quoi ? Les banques françaises, chez les millionnaires, banquiers sont généreuses. En effet, au premier rang des pays en banque conciliante, on a trois États qui se détachent : le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Ah, qu'est-ce que c'est étonnant alors que
vive la France, vive la République.
2397 banquiers ont vu leur plafond s'envoler de bonus, soit la moitié des professionnels de l'Hexagone dont la rémunération est régulée. À peine plus de 2800 banquiers sont concernés dans le reste de l'Europe. Un chiffre important a priori, mais qui n'est pourtant qu'un minimum. Les plafonds obligatoires sur le bonus ne concernent en France que les banques dont le bilan est inférieur à 10 milliards d'euros. Alors vous imaginez des grandes banques comme LCL, BNP Paribas, où on a largement plus que 10 milliards de chiffre d'affaires, elles ne sont pas concernées. C'est une bien belle... Enfin, le monde des riches est conciliant, bienvenant avec le salariat banquier.
Oui, je voulais rebondir. Parce que le problème des banques... de ces gens qui touchent des rémunérations à n'en plus finir, c'est que il y a une tribune récemment de Jean-Claude Mailly, qui est donc le secrétaire général de FO, en fait, qui dénonce les conséquences pour l'économie, c'est-à-dire en fait c'est une financiarisation de l'économie, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est clair.
Et donc une conséquence très concrète à travers les LBO. Alors, je vais pas vous le traduire en anglais ce soir, mais grosso modo, ça s'appelle
du levage de fonds automatique.
Voilà. Alors, le truc, qui est dévastateur pour l'industrie, c'est qu'au fond, grosso modo, hein, les financiers investissent dans les entreprises, par des prêts bancaires, par des prêts qu'ils obtiennent à la bourse, enfin c'est pas des prêts mais des financements qu'ils obtiennent à la bourse, et font payer les intérêts de leur acquisition aux salariés en demandant des taux de rentabilité qui sont tellement énormes que finalement ils détruisent leur outil de production. Et donc c'est ce qui est arrivé par exemple au pages jaunes, et c'est ce qui arrive aujourd'hui à l'entreprise de vêtements qui va fermer hein, prochainement. Et ça en fait c'est spécifiquement dans l'industrie que ça se passe, et c'est quelque chose qui détruit le tissu économique et qui est permis en fait par la mondialisation et par la globalisation. Et là, je veux dire, les règles financières, il y en a pas. Voilà. Et on est toujours à la merci.
Tu parles de l'enseigne H&M et puis les groupes affiliés, ouais. Ça concerne quand même plusieurs milliers d'emplois. D'ailleurs, on les soutient dans leur combat. Il faut savoir que H&M, c'est quand même une chaîne qui fabrique donc à bas coût avec des usines délocalisées, des accords de sous-traitance en Thaïlande, aux Philippines, mais aussi en Chine, etc. Donc c'est pas un problème de rentabilité. Ils sont au bas coût avec les conditions sociales, salariales les plus dures hein, qui puissent exister dans le monde, à savoir les petites chinoises qui courent dans leur coin en étant peu diplômées, voire pas du tout, et qui triment 14 heures par jour avec 6, 7 jours, etc. Mais il faut pas... Donc, c'est rentable. Le mec de H&M, il est milliardaire, celui qui a créé ça.
Oui, oui. Non, mais on a bien compris, Christophe, qu'effectivement...
C'est vraiment une logique de pognon.
Oui, oui. On peut comprendre effectivement que les scandales sont nombreux et variés, et que là, il faut vraiment, on espère un autre monde assez rapide, hein, pour le coup. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter une dernière petite chanson, et ensuite on reprend la parole pour les 5 dernières minutes qui restent. Merci.
Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête, et puis me voilà. Pour une amourette qui se belle saison, une petite amourette jamais trop jolie, quand on sait d'avance ce que dure la vie.
Et oui, quand tout est foutu, reste peut-être l'amour, on ne sait pas. Donc, très très belle chanson en tout cas. Voilà, donc je reprends cette émission pour les dernières minutes qui nous restent, pour quand même dire deux mots sur... ce projet de fusionner des collèges entre eux pour lutter contre la ghettoisation des quartiers, ce qui est une idée extrêmement généreuse au départ pour le coup, mais la mairie de Paris ainsi que l'académie de Paris a voulu donc fusionner deux collèges uniquement, entre donc un collège moyen et un collège en ZEP, donc en zone de prioritaire. Et donc, les parents d'élèves se sont mobilisés pendant deux mois, là, ces derniers temps, et ont présenté donc une pétition de 6500 signatures à la mairie centrale, pour faire poids contre ce projet, afin que on retourne tous autour de la table et qu'on fasse un vrai projet avec un périmètre plus large, donc 3 ou 4 collèges au lieu de 2, et vérifier que les financements sont bien présents dans ce cas. Or, à Paris, donc quand on a suivi effectivement par internet le Conseil de Paris, il s'est avéré que les responsables socialistes qui ont le pouvoir en termes de siège à la ville de Paris ont fait fi totalement de ces 6500 signatures, en sachant que 6500 signatures, c'est exactement le chiffre qu'a obtenu Annick Le Petit pour être élu à la ville de Paris. Donc voilà, donc là il y a un déni de démocratie.
Annie Hidalgo, tu veux dire?
Le Petit.
Député de la circonscription.
Le député de la circonscription, Anne Le Petit, Annick Le Petit a obtenu 6500 voix. Et nous, on a effectivement aussi le même nombre de voix pour faire barrage. Et ça n'a absolument pas marché. Il faut dire que nous, parents d'élèves, ont été traités avec énormément de mépris par les élus du Parti Socialiste. Et donc, la lutte continue. Nous serons donc ici, dans cette émission, contraints, malheureusement, de poursuivre cette affaire et de dénoncer tout ce bordel ambiant, on va dire ça comme ça, je trouve pas le mot. Voilà. Donc cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, dames, de l'avoir suivi. Merci, messieurs, de l'avoir fait avec moi. Restez vigilants, surtout ne lâchez rien. Et je vous dis à dans un mois. À bientôt. Au revoir.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Alberto, saxophone, c'est Bill Graham. C'est tune title. Ooh, shooby dooby.
While strolling through the park, I overheard a lover's conversation. They didn't say, "I love you, dear."
All they did was whisper in each other's ear. They said, ooh, shooby-dooby, ooh, 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 shooby-dooby, ooh, 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 shooby-dooby, ooh, 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 shooby-dooby.